la dimension spirituelle qui est en nous, en extension, cette dimension. En extension. Et en compréhension, je prends chacune des dimensions et je regarde le plus profondément possible. Je n'aurais jamais arrêté dans ma vie d'aller de plus en plus profondément dans chacune des dimensions. Ça va? Donc, la dimension spirituelle, moi, je peux être spirituel par l'art, je peux être spirituel par l'adoration, je peux être spirituel par la recherche de la vérité, je peux être spirituel par l'amour d'amitié, je peux être, etc. Mais je n'aurais jamais fini de saisir, d'être de plus en plus lucide, en compréhension, en intensité, si tu préfères. On dirait aussi en quantité, la division, et en qualité. Et du coup, les deux ensemble, ça fait l'unité. Oui. Mais bien sûr, puisque je viens t'expliquer que le corps, la dimension incarnée de notre vie, fait partie de notre vie spirituelle. C'est que nous sommes contemplatifs, nous sommes par le corps. Toute notre vie spirituelle, c'est à travers un corps, dans un corps et par un corps. Donc la matière joue un rôle. Évidemment, la dimension matérielle. Donc les demeures de l'humain en extension, quand vous entendez cette expression, les demeures de l'humain en extension et en compréhension, ça veut dire toute la personne dans toutes ses dimensions, lucidement intériorisée, actualisée. Oh, que c'est compliqué. Alors ne vous inquiétez pas, petit à petit, vous allez vous habituer. Hein. Ceux qui sont là depuis un peu plus d'un an, ils sont habitués maintenant à ça. Hein, c'est vrai que tu suis maintenant. C'est l'avantage, maintenant c'est... Voilà. Alors vous voyez, reprenez, vous voyez, ce petit tableau. Donc maintenant sur la fin, les dernières cases sont là pour nous expliquer que notre vie intérieure a plusieurs aspects. Elle a plusieurs aspects. Et donc ici, je vous reprends ce que j'avais dit tout à l'heure, et comme il me reste à peine... Oh, c'est que j'ai arrivé, je n'ai même pas un quart d'heure. Ouais, non, c'est gonflé, là. Non, arrivez peut-être un peu plus à l'heure, parce que regardez, on a commencé, il était 3h15, pour 2h30, c'est moche, on ne peut plus rien faire. Alors, venez plus tôt, on vous invite à manger, si vous voulez. Bon. Vous voyez? Bon. Ici, vous voyez, la deuxième, ici, notre vie intérieure, si on est bien dans son corps, ce qui dégage de quelqu'un qui vit bien dans son corps, c'est la vie. Ah, lui, au moins, il vit. Quelqu'un qui vit bien dans sa peau, c'est la vie qui apparaît. Un sculpteur, un génie indiqué, c'est des gens qui aiment le silence béton. Les gens qui fabriquent des parfums, c'est un silencieux. Le nez de Rocha, quoi. Non, je vais vite, j'ai que... Le silence se dégage, vous voyez l'extraordinaire résonance de l'artiste. La simplicité, quelqu'un contemplatif, ce qui dégage, c'est là que vous voyez tout de suite que je ne suis pas contemplatif. Alors, quelqu'un qui a une intériorité très grande, une très grande intériorité, et bien, comme je vous le disais, il déborde de lumière, il a un visage rayonnant. Quelqu'un qui est très intérieur, un visage rayonnant, la lumière. Bon, quelqu'un qui a le sens de la famille, de la vie commune, c'est quelqu'un qui est très doux, très harmonieux. La douceur, une mère de famille qui est très très mère de famille, l'harmonie, la douceur. Quelqu'un qui adore, un adorateur, il y a des flottins par exemple. Flottin, c'est l'amour. Quand on verra Bouddha, quand on verra l'Antichrist, quand les gens verront l'Antichrist, ce qui dégagera le plus du point de vue qualitatif, c'est l'amour, l'Antichrist. L'Antichrist ne sera pas du tout. Vous voyez, ce qui déborde de son intériorité, c'est l'amour. Ce sera un amour, ce ne sera pas vraiment de l'amour, ce sera de la bonté, de la compassion. L'Antichrist, il faut le savoir. très, très extraordinaire ce côté-là. C'est très intérieur, l'Antichrist. C'est intériorité. Donc, amour, l'adoration, une intériorité sacrée. Un Christ cosmique. C'est pas du tout un Christ ressuscité, surnaturel, rédempteur. Bon, très bien, l'amour, pourquoi je vous ai dit ça, je sais pas. L'amitié, ah oui, quelqu'un qui vit pleinement l'amour, l'amitié, il déborde de plénitude. On atteint sa plénitude. Et bien, vous voyez, c'est toutes ces qualités finales, qui sont des neuf particulières de notre vie, qui sont comme des rayonnements, des débordements, des manifestations d'une intériorité particulière. Donc voyons maintenant, premièrement, l'intériorité du silence de l'homme. Quelqu'un qui est génial, vous voyez, il suscite l'admiration du silence. Et lui-même est très silencieux. Alors, c'est différentes structures d'intériorité. Hein. Donc, quand c'est le cœur qui aime, donc la plénitude, vous voyez, une intériorité qui implique cette montée vers la plénitude, c'est un processus de montée vers la plénitude. Ce processus de montée vers la plénitude est un processus d'intériorité qui est radicalement différent du processus de montée vers le silence de l'artiste, le génie qui est en moi. Et il faut savoir ces différentes montées d'intériorité. Il faut savoir les reconnaître. Vous pouvez essayer de commencer à comprendre que à la fois on est un, mais en même temps, on est complexe. Et si on s'aperçoit qu'on est trop artiste, il faut plutôt travailler pour du l'amour. Si on s'aperçoit qu'on est trop du côté de l'art, il faut essayer d'aller plus du côté contemplatif, etc. Il faut arriver petit à petit à... Si à l'intérieur de moi, ça se bouscule, vous voyez, il n'y a aucun silence intérieur, vous voyez, ça c'est signe que peut-être je n'ai pas trouvé justement ma dimension artistique, ma marque. Je suis une pierre dans l'édifice, c'est ça. Alors, donc l'intériorité artistique. Bon, ça va pas être, je préviens que ça va pas être une... Vous n'allez pas sortir d'ici en disant, vraiment, c'était super aujourd'hui. Hein. C'est pas super parce que c'est du travail. Quoi. C'est un travail qui est ardu, ce sera pas une très grande révélation. Enfin, voilà. Sachez simplement que la montée progressivement de l'artiste commence d'abord, voyez, premièrement, par des expériences admiratives. Quelqu'un qui ne commence pas par être ouvert pour admirer, pour essayer de rentrer dans la beauté des réalisations artistiques des autres, première réalisation artistique, la création, qui est une réalisation artistique du créateur, mais aussi les réalisations artistiques, regardez la beauté, c'est pas providentielle de cette photographie, la beauté, c'est vrai, c'est de l'art, la photographie. Ce jeu de lumière, ce cercle, ce rayon, ce... la beauté d'une peinture. La beauté d'une peinture. Même si on n'est pas peintre, qu'on n'aime pas du tout ce genre de truc, on ne comprend rien à la peinture. Pour essayer petit à petit d'être réceptif par rapport aux différentes beautés qui est. Vous voyez ? Et quelqu'un qui n'a aucune admiration ne sera jamais artiste pour lui-même. Il ne pourra pas découvrir son propre. Vous accumulez comme ça des moments de gratuité admiratif. Admirer un beau coucher de soleil sur un champ de pivoine, dans un contraste en premier plan du champ d'avoine. C'est extraordinaire ça. Et puis une colombe qui passe. C'est bon ? Admirer la beauté de Marie-Laure. Elle est belle. La beauté de son maquillage, je crois. C'est de l'art, le maquillage, ça c'est fidèle, le maquillage. On admire la beauté du maquillage. Alors, c'est très original, j'en suis très contrasté. Non, admirer la beauté, vous voyez, c'est très bien. Vous apprenez à faire une icône, par exemple, elle est bien faite. Une belle icône, c'est bon, une icône. D'accord ? Premièrement, Oui, cette dimension, c'est la dimension de l'homme face à la matière. Donc vous regardez tout ce qui, dans une matière, a une particulière forme. Et toutes les formes sont belles. La beauté d'une rose. Et il faut comprendre que cette beauté est inférieure à la réalité que je contemple, que j'admire. Hein, c'est fort. L'admiration. Alors, je cumule comme ça ce genre d'opération admirative. C'est important parce que vous voyez, quand vous aurez des enfants, ou des vos catéchistes, ou quoi, ou vos propres enfants, bon, bah, il faut. Les laisser comme ça, leur montrer, le faire avec eux pour qu'ils le fassent, qu'ils admirent. Bon, faut pas faire du snobisme en disant ce Picasso. Oh, vraiment, quel message, quelle révélation, que fini. Non, si Picasso est nul, c'est nul. C'est l'histoire de. Salvatore Dali, tu vois, Salvatore Dali, la garde perfillon, la garde perfillon, et le chef-d'œuvre du génie artistique de toute la civilisation occidentale. Bon, alors, bon, ok, non, faut pas exagérer. Alors, donc, parce que la garde perfillon n'est pas terrible. Non, exactement. À force d'accumuler toutes sortes de beautés, quand on devient ce qu'on contemple, toutes ces beautés intérieures qui structurent de l'intérieur, la matière, toutes ces matières, les réalisations artistiques que vous voyez, à force, ça pénètre en vous, toutes ces diverses. Alors ça fait, c'est des beautés qui s'enchevêtrent les unes dans les autres, et du coup, ce nous dans votre imagination lié à votre vie contemplative, admirative, ce qu'on appelle, à un moment, ça explose, on ne peut plus. Il y a une inspiration, vous portez quelque chose. L'inspiration après. À un moment, vous avez une inspiration. L'artiste, si un jour vous voyez, vous verrez parmi vos copains, vos amis, tout ça, des gens qui sont très artistes. Et je vous signale tout de suite que quelqu'un qui est très artiste, mais qui n'est qu'artiste, c'est-à-dire les autres, qui passe un petit peu au rencard, c'est quelqu'un qui dramatise. Que vous êtes un être silencieux s'il y a un petit peu les autres dimensions. Mais s'il n'y a que l'artiste, c'est le grand drame. Le grand drame, on dramatise tout. Dès que vous êtes dans un état, vous dramatisez tout. Et le gosse, quand vous mélangez complètement tout ce qui est d'ordre de l'intelligence, de l'ordre de l'amour, de l'art réactif, il n'y a plus que le point de vue artistique. Le gosse qui s'est fait un bobo. Il n'est pas mort ou presque, normalement, etc. Alors il mélange la vérité de sa blessure, l'affectivité par rapport à sa mère. C'est un drame, la mère dit, mais il n'y a rien du tout. Ah. L'artiste. Un grand drame, c'est extraordinaire. Le drame. Nietzsche, c'est l'idéologie du drame. Le grand drame. C'est l'apocalypse. Il faut que l'humanité se réfugie dans l'urbanité pour qu'il n'y ait plus que l'art et la mort de l'homme qui n'est plus que le surhomme, le grand drame pour pouvoir rentrer dans l'éternel retour. Et c'est pourquoi j'aborde deux choses dans l'humanité aujourd'hui, la métaphysique et la compassion. Ça, c'est Nietzsche. C'est le grand drame, Nietzsche. On a l'impression de vivre, t'as compris, Nietzsche. C'est le grand drame. L'artiste, celui qui. Il n'y a plus que lui, c'est le tombeau, c'est le bulldozer, qui va à toute vitesse. Alors, l'inspiration apparaît, il n'y a plus d'inspiration. Vous comprenez, quand vous portez une inspiration, ce que vous portez en vous, il faut que ça soit beau. Absolument. Oui. C'est comme ça que je vous avais dit, peut-être une fois ou l'autre. J'avais écouté une émission, donc le nez de Rochat, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, mais c'est Mémanas, je crois. Et c'est un espèce de grec sicilien, qui est français maintenant. Et est capable de reconnaître 4000 parfums différents. Ah, ça c'est bien. Beaucoup d'expérience olfactive, vous voyez, il admire ce parfum. Et puis, il se retire dans le silence. Il dégage, il ne veut plus respirer le parfum. Et à un moment, il était en Italie à Ravenne, il a vu les mosaïques de Ravenne. Ravenne, c'est extraordinaire, c'est des mosaïques byzantines, machin, extraordinaire les mosaïques. Vous allez à Ravenne, regardez les mosaïques de Ravenne, c'est extraordinaire, une église de basilique, c'est gigantesque, hein. Ça lui a donné une impression intérieure, parce que c'est vraiment un artiste. Une émotion d'une si grande force qu'il a dit, il faut que je fasse un parfum pour exprimer ce que je ressens. Et du coup, il a créé Byzance. À vie, bois cette demoiselle. Byzance, c'est comme ça. Byzance, c'est quelqu'un qui a voulu marquer ça, du coup, je veux pas que ça, c'est un artiste. Oui. La porte d'une inspiration très grande. Vous voyez ? Très important, c'est bon d'avoir des quelquefois même au point de vue religieux, regardez, il y a des gens qui sont inspirés, les révélations privées. Hein? Est-ce que c'est un saint? Un saint, c'est l'amour, hein, et la contemplation. Parce que si l'inspiration, révélation privée, l'inspiration. C'est pas parce que vous avez une révélation privée que c'est un saint. Donc si vous avez des révélations privées, vous n'êtes pas un saint. Ou alors venez me voir et on verra. Bon, alors du coup, vous avez un projet. Vous avez un projet. Ouais, je sais, j'en ai dit de privé. Alors donc, projet majeur, si vous avez un projet, vous avez porté une aspiration. Du coup, vous voulez absolument que ça s'imprime dans la... Faire quelque chose. Il faut absolument que ça... Il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je produise quelque chose. Il faut que je sois moi-même source. Que je reproduis cette inspiration que je porte en moi. C'est pour voir hein, un artiste comme c'est fort. Hein. C'est très tyrannique, quoi. Il le faut, hein. Tous ceux qui t'empêchent sont des. Sont des sous-développés, quoi. Des gens qui sont dans la réactivité pure. Très difficile de vivre avec un artiste. Très difficile. Elle me rappelle que avant de partir en Compostelle, j'avais préparé un mariage. Je vous l'avais raconté, c'était tellement marrant. Je préparais au mariage donc un ménage. Et c'était chez le père de cette jeune fille qui était juive. Elle était suivie avec les cousins qui étaient catholiques pratiquants, donc c'était compliqué tout ça. Bon. Donc son père, alors il y avait son père, donc, il n'avait pas marié, il n'avait pas baptisé, bien entendu, cette jeune fille qui était juive. Et donc il y avait un tout petit enfant qui était là, qui était le fils donc, de sa sœur. Bon, okay. Il avait quoi, 5 ans, pas baptisé non plus, donc famille athée, juive, tout ce que tu veux. Bon. Alors, le grand-père, avait travaillé pendant un mois dans son salon, il avait tapissé extraordinairement satin dans son salon, impeccable, et c'était beau, attention, c'est un beau salon, magnifique, c'est de l'art. Et puis le petit garçon, 5 ans, et ils ont pas tué, j'avais fait un cause de quelque chose, alors j'ai dit, oh le jeune, je vois le dessin qu'il avait fait, sur le papier, le soleil, ok, pour ton dessin, je dis, oh là là, il a apporté la conversation sur quelque chose. Pour rejoindre les gens où ils sont, là, il y a plus que s'il y a clair, alors c'est là sur la regardant, tu. Oh, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Alors lui, il avait vu qu'on avait reconnu son inspiration, petit gosse. Et pendant qu'après, une heure après, je discute avec le grand-père, on va dans le salon, il avait fait un beau soleil, une même sur le satin. Très difficile pour deux artistes de vivre ensemble. Parce qu'il y en a qui ont l'inspiration de faire un salon comme ça en beau satin, et l'autre, son inspiration, c'est autre chose. Et le grand-père dit, mais comment est-ce que tu as dit? Et le gosse a dit, mais il ne comprend pas, il ne comprend pas. C'est très beau. Même le père, il est... Deux artistes ensemble, ça va pas.
très difficile de rester ensemble. Chacun apporte son truc.
Et donc, si vous êtes qu'artiste, et si vous n'entendez pas, c'est parce qu'il n'y a que l'artiste. Souvent, c'est ça. Aujourd'hui, c'est essentiellement ça. La rupture de communication et les ruptures viennent essentiellement de ça. C'est pour ça que c'est important. Donc, vous faites un projet. Vous faites un projet. Il faut que vous faites un projet. Ah ben, je vais faire un parpaing, du coup. Ah ben, il aurait très bien pu dire, ah ben tiens, ben, du coup, je vais me convertir avec la mosaïque. Je fais une mosaïque. Voilà. Je fais plus de parpaing. Enfin, on fait un projet. En fait. Il aurait pu tomber amoureux, du coup, de la paroisse qui sortait de la basilique. Et du coup, faire un poème. Enfin, il aurait pu faire tout ce que tu... Bon, ok. Mais du coup, il fait un projet. Parce que quand c'est l'amour, hein, quand tu tombes amoureux, tu deviens poète. C'est pour ça que les amoureux écrivent beaucoup. Mais en fait, faites attention parce que les lettres qu'on s'écrit quand on est très amoureux, comme ça, c'est pas du tout des lettres d'amour, c'est des lettres de poésie, d'art, toujours. N'oubliez jamais ça. Alors vous les gardez bien pour pouvoir admirer après, 50 ans après. L'amour, c'est autre chose. Donc vous voyez, faites un projet. Et du coup, vous arrivez à un 3, à un 4. Il faut absolument que vous vous mettiez. Alors du coup, faites un choix chrétien. Je sais, je vais faire ça. Allez, et hop, je sais ce que je veux faire. Vous voyez presque d'avance le résultat. L'inspiration, c'est l'émotion contemplative admirative qui se noue. Le projet, c'est la forme que vous voulez transmettre. Et le choix créateur, vous voyez déjà le résultat à l'avance. Voilà ce que vous voulez. Et du coup, vous commencez à travailler. Vous travaillez, vous rassemblez. Et le génie de l'artiste, c'est celui qui est capable de dire, mais pour arriver à ce résultat, le plus vite, le mieux, le plus extraordinaire, comme moyen, le moyen le plus adapté, c'est de prendre ça, tel type de toit, tel type de, etc. Tel mode de travail. Je vais faire plutôt en peinture à l'huile, ou alors plutôt en aquarelle, ou plutôt en piston, je sais pas quoi. Il y a beaucoup de choses. C'est prendre ce que je veux. Vous voyez ? Le choix créatif. Et du coup, vous travaillez, vous travaillez. Regardez pour un musicien, le travail que ça veut dire. C'est là qu'on voit que l'art, c'est bien sûr le génie qui fait que vous êtes artiste. Mais ce génie n'est vraiment génie que si effectivement, c'est un génie qui ne cesse de travailler. Parce que si c'est uniquement une petite inspiration passagère comme ça, qui n'est pas du tout une inspiration très grande d'artiste, alors à ce moment-là, vous ne travaillez pas. C'est une autre imagination, et puis c'est tout. Parce qu'un véritable artiste, il ne peut pas continuer à vivre tant qu'il n'a pas fait. C'est pour ça qu'il travaille. Il travaille pendant 5 ans, 10 ans. Pour les cathédrales, il va travailler pendant 2 siècles, pendant 5 ans. Tant qu'il n'aura pas fait. Impossible pour un artiste de faire autre chose. Tant qu'il n'a pas fait. Une fois que c'est fini, vous. Vous voyez, ici, c'est important, vous voyez, la psychologie de la foule. Donc le travail d'exécution, il faut le faire, les voies sont déterminées. Et du coup, vous exécutez, et enfin on arrive à l'œuvre. Voilà donc les 7 grandes étapes. Vous voyez bien que ces 7 grandes étapes sont structurées en fonction des 7 dimensions de l'œuvre, parce que l'artiste, lui, traverse ces 7 aspects, voyez ça. Dans la dimension qui lui est propre, ce qui commande tout, c'est l'inspiration qui lui vient. Et vous voyez bien que dans la relation qu'il a par rapport à ce qui l'entoure, à ceux qui l'entourent, à l'univers qui l'entoure, aux personnes qui l'entourent, à l'ami, à l'amour, à l'ami qu'il aime, qui l'entoure, ce qui domine chez lui, c'est que ce qu'il porte en lui doit s'imposer à l'autre, à la matière. J'espère que vous comprenez à quel point on est, à quel point c'est positif, premièrement, à quel point c'est grand d'être un artiste, mais à quel point aussi, du point de vue de l'intériorité, on est aux antipodes de l'amour. Puisque dès que tu aimes quelqu'un, ce n'est pas ce que tu portes en toi que tu cherches à ce que ça te réalise dans l'autre. Mais c'est la personne de l'autre qui détermine tout ton intériorité. C'est exactement le contraire. La détermination ne vient pas de ton intériorité inspirée, mais elle vient de l'autre. C'est vraiment les deux situations extrêmes. Produit l'intériorité, l'amour et l'art. Est-ce que vous voyez ça? J'espère que vous comprenez. Hein. Il y a quelqu'un qui ne comprend pas? Tu ne comprends pas? Non. Alors, un moyen de purifier la dimension artistique qui est en nous, c'est la liturgie. Parce que la liturgie permet d'associer la dimension intérieure d'artiste qui est en nous, qui est de la beauté, qui relève de la beauté, à l'adoration. Donc quand je noue mon intériorité à la présence du Créateur, c'est le premier moyen d'harmoniser toute ma vie intérieure avec, ne pas être trop un monstrueux. Une tête énorme comme ça, et des bras petits comme ça. Oui. La liturgie. Quand on prie, même quand je prie tout seul, il faut que ce soit beau. Essayez que ce soit comme ça, que ce soit beau. C'est un coin de prière, mais qu'il soit beau. Quoi. Et puis quand vous priez, il faut que ce soit beau. Pas mauvais, ça. Si vous êtes très artiste, vous voyez, mettez une petite musique qui soit belle, hein, qui soit vraiment belle. Qui la beauté. Et cette beauté, c'est portée en Dieu. Et comme ça, vous adorez à travers ça, cette portée. Et ça, c'est une première manière de, pas purifier, mais d'harmoniser votre vie intérieure d'artiste, si vous êtes trop artiste, avec les autres dimensions qui sont en vous. La deuxième, la troisième manière de purifier la chose, c'est de mettre plus l'accent sur la première étape. La première étape qui consiste à admirer et à contempler et essayer de contempler peut-être un petit peu moins des œuvres en faisant du snobisme, et de contempler plutôt davantage des réalités qui sont spirituelles, et notamment des personnes. Ou des choses qui sont super spirituelles, des choses sacrées. Essayez de contempler, par exemple, la blancheur de l'hostie. C'est quand même extraordinaire. Parce que contempler la blancheur de l'hostie, de l'intérieur, en comprenant que Jésus, dans la gloire, c'est Ephraim qui dit ça, dans la gloire, j'aime bien cette petite remarque, la gloire du corps ressuscité de Jésus a respecté la blancheur de l'hostie. C'est extraordinaire. Comment respect. La transubstantiation, il respecte les accidents, tu penses. Admirer la blancheur de l'hostie, puisque si Jésus l'a respecté, la beauté, la splendeur, la blancheur de l'hostie, c'est la signification, hein, ça. Et c'est être contemplatif par rapport aux réalités sacrées, aux réalités spirituelles, aux réalités surnaturelles. Enfin, c'est vraiment très beau, excellent. C'est de plus en plus admiratif. Vous voyez? Bon. Et je crois aussi, évidemment, une autre manière de purifier un petit peu ou de rééquilibrer, c'est de faire l'apprentissage un petit peu en nous, rééduquer notre cœur. Et pour rééduquer notre cœur, il faut de temps en temps s'arrêter. Comment est-ce qu'on fait pour rééduquer son cœur? Oui, c'est la première ligne ici, le cœur qui aime. Il faut passer de l'admiration contemplative qui est celle de l'artiste à un autre mode, parce que c'est la même soif qui apparaît, hein, quand on cherche, on a besoin d'admirer, c'est en même temps une soif, c'est la même soif intérieure. Donc on peut choisir une autre structure d'intériorité au départ. Donc c'est le départ. Donc au lieu d'admirer la beauté des choses, essayez de faire, de vous arrêter devant le réel. Le premier réel, c'est vous-même. Et de voir que vous êtes attiré. Vous regardez le réel qui est devant vous et vous l'admirez. C'est une première manière. Le réel qu'il y a, qui est si beau, qui est si grand, vous l'admirez. Si vous l'admirez, ça pénètre en vous. Hein. Tandis que si c'est du côté de l'amour, vous arrêtez un peu, prenez conscience que le réel qui est en vous et autour de vous vous met dans un état d'attraction. Il y a quelque chose qui vous attire. Vous voyez, le mouvement est contraire. Hein? Il y a deux admirations. Il y a une admiration qui vient de l'amour et une admiration de l'art. Parce que vous voyez bien, dès que le cœur se révèle, pour commencer à s'intérioriser et à intensifier sa force d'amour, et bien face au réel, essayez de prendre conscience qu'il y a. Vous êtes attiré par quelque chose d'autre que vous, par quelqu'un d'autre que vous. Acceptez. Il faut accepter que je sois attiré par un autre que vous. Il y a des gens qui refusent l'amitié, hein, qui ont trop peur. Et les gens qui refusent le Dieu, c'est souvent ça. De l'amour. Alors, du coup, ils se réfugient dans leur propre aspiration. Oui. Mais c'est pas mauvais aussi d'être extrêmement sensible et d'être artiste. Il le faut. Sinon, je veux dire, le monde est triste. Et c'est plus un homme. On doit achever la création, la rendre plus belle. Sinon, eh bien, voyez bien, j'espère qu'on a été un peu rapide, mais j'espère que vous avez au moins vu le problème. Au moins vu que là, il y a une porte à ouvrir, ok? Bon, et puis on tâchera peut-être, les autres fois, on peut, si vous voulez, continuer à essayer de regarder. Ce sera peut-être un thème pendant 3 ou 4 fois de suite. On regardera le tableau, on essaiera de piger. Ça va? Ça vous va? Sinon, on peut faire autre chose, hein, mais c'est grave. Moi, je... Ah bon? Non, mais alors, est-ce que vous avez des questions à poser? Alors, on va terminer par les petites questions. Bon, alors, est-ce que vous avez des petites questions à poser sur ce qu'on a dit ou sur autre chose, hein? Bon, alors, un peu, tant pis, quoi. Tant pis pour vous, c'est moi qui vais causer, hein. On est tous des artistes. Quelqu'un qui dit, moi, artiste, je ne suis pas artiste. Quoi. Tous, on est tous. Quelqu'un qui dit, je ne suis pas un artiste, c'est quelqu'un qui n'est pas encore une personne. Il faut découvrir son génie. Et vous voyez, vous avez la ligne d'en dessous, vous le voyez. Si vous êtes artiste, et que en même temps, vous avez un sens de la nature très très fort, et qu'en général, vous êtes quelqu'un qui est bien dans sa peau. Eh bien, c'est vrai, vous verrez, avec les petits gosses, etc., vous leur mettez un petit peu de pâte à modeler, vous leur mettez un petit peu de un bois, une sculpture, etc. Et pour la sculpture, ils sont remarquables. Moi, j'ai toujours remarqué, j'ai deux amis qui sont sculpteurs. C'est des bons hommes. Un peu morphologiquement comme toi. Un corps qui prend bien l'espace, tu vois. Et puis, c'est vrai, c'est marrant comme tout, c'est des gens qui, pour eux, la vie, c'est quelque chose, quoi. Alors, et puis, ils sculptent. C'est des bons sculpteurs, ça. Et tout près de Tetov, il y a une petite communauté avec des Mongoliens. Alors, et ben, c'est vraiment bien, ce Mongolien. Il y a Annie, qui Annie et Louise, donc ils sont ensemble, qui jouent le rôle du père et la mère, bon, ils sont mariés, c'est deux divorcés, hein. Donc ils vivent comme frères et sœurs, etc. Ils s'occupent toujours de quelqu'un, c'est magnifique comme œuvre, extraordinaire. Ça, je vous en parlerai peut-être un jour. Eh bien, une fois de temps en temps, elle prend les handicapés, comme ça, c'est mon coquin. Et puis, allez hop, on va essayer. Elle essaie de dire, voilà, on va essayer de faire un art comme ça avec les doigts, en peinture. Allez, pendant une après-midi. L'après-midi d'après, allez, on va essayer de faire un poisson avec de la pâte à modeler. Vous verriez ces poissons. C'est tous des handicapés, hein. Moi, j'ai vu les 12 poissons qui avaient été handicapés en l'espace d'une demi-heure, je sais pas quoi. Mais j'aurais été incapable de le faire. Incapable, hein. On aurait vu, on aurait vu un vrai poisson. C'est fantastique, mais petit comme ça, pourtant, on peut pas rester la main avec les doigts. Vous pouvez pas savoir comme les Mongoliens ont le sens du corps. Et c'est pour ça d'ailleurs quand vous allez là, allez, ils viennent sur vous, ils se collent sur vous. Ah, peur pas de lui. Non. Ils se collent, ils se collent. Ils ont blessé pour une triste vie, mais le corps est extraordinaire. Eh bien, ils sont du côté des mains, quelque chose. C'est une précision, vraiment habile. Alors, elle a fait l'expérience, elle m'a dit il y a 15 jours, j'ai fait l'expérience pour la première fois, j'ai fait venir leurs parents, on a fait une session de 6 jours, et je leur ai fait la même chose. On a comparé les petites sœurs de leurs enfants mongoliens et les leurs, et pas les parents étaient verts. Bon, donc, vous voyez, c'est bien. Bon, alors, donc, vous voyez la sculpture. Hein, la main qui accueille, qui retient. Mais quand vous voyez Père Marizo, par exemple, qui vous confesse, il a sa main qui vous prend le coude. Il vous accueille, il vous retient en même temps. Alors, si vous n'êtes pas d'accord, hein, si celui qui n'est pas d'accord, il aime bien faire ça, parce qu'il voit tout de suite. Si même, fondamentalement, il y a un refus. Parce qu'il prend la main et au coude, c'est-à-dire la première articulation. Philosophiquement, c'est très fort, là. C'est un philosophe, Marizo. Il vous prend la main, vous coûte. Si vraiment il y a un refus fondamental, le type dégage. Alors, il n'insiste pas. Il passe à un autre, c'est pas comme ça. C'est bon, vous avez remarqué, quand même. Oui, oui. Bon. Bon, alors. Vous voyez, donc, quelqu'un qui serait artiste au carré, c'est la musique, c'est la grande symphonie. Le musicien, c'est extraordinaire de voir ça. Quelqu'un qui est artiste, c'est tout ce qu'il porte en lui, c'est au carré, parce qu'à ce moment-là, c'est la passion, regardez, béton. Il ressemble à Nietzsche, d'ailleurs. Mais c'est l'inspiration vraiment sacrée, hein. Il dit bien que son inspiration, il avait entendu des dieux, hein. Il avait entendu, c'est comme une révélation transcendante. Il avait entendu, reproduit. Extraordinaire, Beethoven. Je me rappelle quand j'étais à Sorèze, hein, j'étais aumônier à l'école de Sorèze, on avait reçu pendant un mois 200 artistes musiciens. Et on a essayé de réfléchir sur les significations de l'intériorité artistique pour un musicien en comparaison avec un peintre, en comparaison avec un... Et on avait regardé que si on était musicien, eh bien, on n'allait pas automatiquement au piano, on n'allait pas automatiquement au violon. Il y avait différents types de musique selon la dominante intérieure, exactement comme là pour l'art en général. Il y a une musique qui sculpte. Il y a une musique qui est purement musique. Il y a une musique Il y a une musique qui crée un volume. Il y a plusieurs styles de musique. C'est pas du tout pareil. Le pianiste, c'est celui qui joue au violon. Hein. C'est évident. Tout à fait autre chose. C'est celui qui vocalise. Tout à fait des choses comme ça. Eh bien, c'était très intéressant, parce que moi j'avais un laboratoire là, sous la main pendant un mois. Vraiment fabuleux, extraordinaire. Ça m'a beaucoup aidé, justement, à mettre des choses comme ça en forme. Bon, vous voyez, si vous êtes quelqu'un qui est très contemplatif, vous voyez une petite carmélite qui sort du carmel, et puis qui veut être, qui est artiste, vous le savez bien. C'est la danse. Vous verrez, c'est vrai, vous avez remarqué, il y a plusieurs exemples comme ça hein, en France. Il y en a deux ou trois danseuses très connues qui sont sorties du Carmel. Et puis il y a aussi pas mal de danseuses. Par exemple, la sœur Catherine Sopoy-Busset, là, était danseuse, bah, elle est rentrée dans une communauté contemplative. C'est vrai, la danse, c'est un aspect de l'art. Et, moi, j'aimais bien danser, j'adorais ça. Bon, très bien. Donc, vous voyez, la danse, c'est d'exprimer, vous voyez, par le pied, il y a une agilité qui fait qu'on est en même temps sur la terre, en même temps, on n'est pas sur la terre. Et on prend le volume, j'allais dire, de supérieur, de l'extase. C'est en même temps sur la terre, mais ce pied qui est en même temps sur la terre, puis en même temps, il l'envole. C'est ça, la danse. Alors, on dort, j'aime pas le rock'n'roll qui. Quand on dansait, nous, à mon époque, on faisait voler la fille de. C'était voler dans les airs, c'est génial. Aujourd'hui, quand on danse tout ça, on est archi pressé, tu vois ça, si tu fais voler la fille dans les airs, le voisin, que ce soit beau. Alors, si c'est un. Hein, si quelqu'un qui t'aime pas, il va dire ouais, t'as fait exprès, boum, et après ça se termine. Hein. Alors, donc, vous voyez, la peinture, tout à fait autre chose. La peinture, ah oui, quelqu'un qui est intéressé. Quelqu'un, vous voyez, là, quelqu'un qui est très. Quelqu'un qui est très, comment dire. Capté par le point de vue de la lumière. Hein. Il a soif de lumière intérieurement, il est assez intérieur, il s'est intériorisé, en fait là il s'est replié sur lui-même, quelqu'un qui s'est replié un peu sur lui-même, et qui du coup s'investit, j'allais dire, dans son intériorité, qui n'est pas repris sur soi, et s'il n'y a que ça, souvent ça va faire un peintre. Je le sais parce que j'ai une de mes sœurs qui est peintre. Faites comme ça, voyez, soyez attentifs aux gens que vous connaissez bien, et regardez. Très intéressant pour connaître ceux qui sont autour de nous, ces choses-là. Vous voyez, le peintre. C'est-à-dire que l'œuvre de l'intérieur exprime une intériorité lumineuse, que la lumière déborde de l'œuvre que je fais à travers la matière. C'est ça le peintre. Vous savez, il se reproduit en fait dans une œuvre. Vous sentez bien que c'est quelqu'un qui a une intériorité, mais qui n'arrive pas. C'est bien souvent des gens qui ont beaucoup de mal, beaucoup, qui ont beaucoup de mal parce qu'ils n'arrivent pas à faire éclater leur intériorité, pas à cause d'un complexe de culpabilité souvent d'ailleurs. Ah, ils aiment peintre. Alors finalement l'intériorité s'éclate dans le point de vue de l'adoration, un véritable éclatement. Mais il peut y avoir les deux, remarquez bien. Quand vous êtes très intérieur, vous êtes pris, quand vous êtes à l'orée de la deuxième épreuve, vous avez passé l'adolescence, puis vous êtes pris dans la seconde épreuve de la puberté, l'apparition de la conscience, l'intensité, la présence de la conscience. Regardez dans votre vie, la première fois que vous avez fait un dessin génial. Vous n'auriez jamais cru que vous auriez réussi à faire un dessin. Une sainte femme. Je ne sais pas du tout, mais je me rappelle que quand j'avais 18 ans, je fais une fois. Je me rappelle du catéchisme, je faisais le catéchisme à des gosses à un moment. Et je parlais. parlais de cette idéologie athée, je vous ai dit, c'est pas ça. Cette idéologie, cette dragon, etc. Et puis Satan qui s'est le nom. Sans être traumatisé, tout simplement. Bon, bah, écoute, faut voir, à l'école, on vous dira l'évolutionnisme, l'année prochaine, bon, bah, fais gaffe. Apprends par cœur, faut que tu aies 10 sur 10, mais dis, la maîtresse, c'est pas vrai. Alors, je leur parlais de ça, de cette idéologie athée, à ces gosses qui étaient quand même capables, au bout de 4 fois, de reconnaître laquelle idéologie athée est en train de cracher à travers le poste de télévision, derrière telle image, telle parole. Et pendant que tu sais, je me rappelle tout, je parlais de ça. Et puis je parlais d'autres choses, la grâce, etc. Et il ne l'a fait qu'une fois. Mais il a dessiné sur sa page de garde de son catéchisme, il a dessiné un truc. Salvador Dali n'aurait pas fait mieux, je crois. Extraordinaire! Il a craché. C'est la colère. Il était intérieurement en colère, campus. C'était l'intériorité. Il prenait conscience de quelque chose. Il prenait conscience de quelque chose. Il a traduit là. Je vous assure, c'était beau. C'était génial. J'aurais pas pu faire un truc pareil, moi. C'était un espèce de dragon qui était en train de panthère qui était en train de cracher du feu. Ça donne une impression. Je sais pas comment ils avaient fait. Ouais, quand l'intériorité apparaît, c'est très fort. Il faut savoir dessiner. Ça, c'est là. Quelqu'un qui n'a jamais dessiné, ça veut dire qu'il n'a jamais pris conscience de rien du tout. Voilà. Peut-être pas, parce que peut-être que aussitôt que vous prenez conscience de quelque chose, vous rentrez dans l'amour surnaturel et dans l'extase contemplative, ça c'est possible aussi. Bon, l'architecture, vous voyez, quelqu'un qui a très très fort le sens de la communauté, très très fort le sens de la société, regardez Claudel par exemple, comment Claudel montre à travers ses œuvres ce point de vue de l'intériorité, celui qui fabrique des cathédrales, l'architecte, qui fabrique une maison. Regardez comment l'artiste, le père de famille et la mère de famille, dès qu'ils sont ensemble, qu'ils vivent ensemble avec les enfants, la première œuvre artistique qu'ils font, allez, on va penser ensemble une maison. Un plan, comme ça, comme ça. Ma mère était comme ça, terrible, c'était affreux. C'était devenu une... Non, c'est pas quoi ma mère, hein. Mais c'était devenu vraiment une maladie, là. Hein. Il fallait toujours changer, allez hop, allez on va déménager ici, ce qui est dans le salon, on va le mettre dans la manche, ici on va le mettre dans la salle, dans la salle. La déménager, tout le temps, tous les mois, il fallait changer les dispositions, l'architecture, l'artiste, là. Évidemment, de temps en temps, j'ai un petit enfant qui était pas commode, pas commode du tout, avec un père qui était positiviste, scientifique, etc. Bon, c'est bien. Attends, ma mère, hein. Allez, hop. Allez, on va déménager, allez, on va pas vous. Bon, vous voyez, donc, l'architecture. Le théâtre. Ah oui, le théâtre. Hein, quelqu'un qui a le sens religieux. Vraiment. Et ça, dans les listés, tout ça, il y en a quelques-uns qu'on les met sur les plans, parce qu'au moins, on s'éclate, on rigole. Ah, la marche, ouais, c'est la détente, hein. La super détente, eh bien, c'est des gens religieux, ça. Enfin, je me rappelle que mes premières œuvres artistiques, c'est pas parce que j'étais plus religieux du collège, mais dès qu'il s'agissait de s'éclater un peu, allez, hop, on se planquait sur les planches, allez, vas-y. Bon, non, mais c'est pas pour ça. Maintenant, je suis très, très correct. Vous voyez, c'est une attente. Le religieux, c'est une attente, essentiellement, à ce qui advient. L'artiste qui est en attente de ce qui revient. Si vous avez déjà fait du théâtre, vous demandez la planche devant vos collègues, vos camarades, vos amis, etc. Hein, je vous assure hein, que c'est pas facile. Hein, parce que vous ne savez pas ce qui va arriver. Hein. Vous ne savez pas comment ça va se passer. C'est pour ça que je traque. Hein. Tout va se nouer uniquement au moment où on le fait. Vous ne savez pas comment ça va se faire. C'est extraordinaire. Il y a quelqu'un qui est profondément religieux, je pense, puissant, que ça se passe, au point de vue artistique. Il faut qu'il en prenne conscience.
avant de faire une coupe un psy-psy avec vous, vous savez très bien que je ne sais jamais à l'avance ce que je vais dire. Jamais préparé. Vous n'avez jamais vu venir avec un papier à vous lire. Hein. Sauf la revue de presse. Allez, et enfin le dernier, c'est la poésie. Mais ça, vous le voyez immédiatement, dès que vous tombez amoureux, vous écrivez. Et ça, tout le monde sait ça, enfin. Ouais, c'est marrant, ça. C'est des petits trucs comme ça qui montrent que l'homme, est la personne humaine, est quelque chose de très harmonieux. De très extraordinaire. C'est une complexité, mais qui est très, très fluide, très belle, très unifiée de l'intérieur. C'est une sagesse extraordinaire. Nous sommes fabriqués avec nom, poids, mesure, beauté, grandeur, bonté et transparence. C'est extraordinaire. Il faut savoir regarder ces choses-là. Bon, on va très bien. Eh bien, écoutez. On va pouvoir prier du coup maintenant. Hein. Maintenant qu'on a phosphoré, on va prier. Dans 5 minutes, on a du chapelet, et dans une demi-heure, ensuite, nous allons célébrer l'Eucharistie.